bon jouir, c'est Agathe. Mais qu'est-ce qui se passe, Benjamin Bechler?
Je ne sais pas, on a pénétré oui. Une nouvelle dimension, je ne sais pas ce qui nous arrive.
Mais moi non plus, je ne comprends pas.
Où est passé notre dimanche?
Mais voilà, nous ne sommes pas dimanche, nous sommes samedi et il est 13h, mais que se passe-t-il?
Alors avant... C'est excitant aussi en même temps.
C'est un petit peu excitant parce que le changement c'est excitant. Et pour vous, auditeurs et auditrices et auditoiresses de Canal B, vous vous dites mais ce n'est pas
What
du
the
tout
fuck
la bonne émission. Qui sont ces deux-là qui parlent sur une musique un peu lancinante? Et ça n'est pas la gymnastique sonore, non, je vous l'annonce.
C'est une autre gymnastique.
Et elle peut être un peu sonore au final.
Voire beaucoup.
Tout à fait. Alors après Blue Sheet, on remercie évidemment...
Francky Lafouf.
Et Pipou, merci pour
merci
ce passage de micro. On se croise un peu comme pour la première fois et c'est un peu étonnant et très déstabilisant aussi pour nous de changer de rocker. D'habitude, on est après Metal Injection le dimanche à 23h. Alors bienvenue à vous qui peut-être ne connaissez pas Bon Jouir. Bienvenue dans ce monde dédié au plaisir et aux sexualités. Et là, vous vous dites burp, burp, mais nous sommes samedi, il est 13h, est-ce que je dois éteindre la radio? Mes enfants sont là. Non, tout va bien se passer. On a prévu une émission assez tranquille, enfin, c'est
oui,
pas vraiment le mot
soft,
d'ailleurs.
On, soft, si on peut dire.
Aux petits oignons, vous pouvez cuisiner votre retour de marché. C'est mieux que François-Régis Gaudry, car c'est d'autant plus savoureux. Bon jouir.
Bonjour.
Sur Canal B. Bonjour Benjamin Bechler.
Bonjour Agathe.
C'est étonnant.
Bonne bonjour.
Oui. C'est étonnant de se dire bonjour. D'habitude, on se dit bonsoir.
On se dit bonsoir ou bonne nuit d'ailleurs.
Aujourd'hui, nous sommes samedi 17 juin et c'est le mois des fiertés, mais c'est aujourd'hui en tout cas à Rennes. Qu'est-ce qui se passe?
C'est la marche des fiertés.
Voilà, alors je vous vois absolument bien déguisé, maquillé. Là, en tout cas, je vous trouve très beau, Benjamin Bechler, je dois vous le dire. Vous rutilez, vous pétillez, voilà.
Oui, je pétille. Alors, j'ai un petit haut à paillettes, très, très moulant, avec un juste corps.
Exactement. C'est très beau, vraiment. Ouais. On vous sent, d'ailleurs, dès que vous vous déplacez, hop, il y a une effluve de parfum, de paillettes. C'est vraiment, c'est glitter, quoi.
J'en peste le patchouli.
Très bien. Alors aujourd'hui, donc, marche des fiertés, c'est quand même hyper important, joyeux, festif aussi. Parce que ça permet quoi, en fait, Benjamin? À quoi ça sert, une marche des fiertés?
À montrer qu'on est fier,
ouais.
mais surtout à revendiquer des droits.
Voilà.
Oui.
Revendiquer quoi comme droit?
Le droit de s'aimer, le droit de forniquer,
oui.
Le droit de se marier, d'avoir des enfants.
Le droit d'être gender fluide, enfin en tout cas
tout
d'avoir un
fait.
Rapport à son genre, pas forcément normé. Le droit de pas justement être dans les cases. Aussi.
C'est ça.
Donc finalement, ça tombe pas plus mal que nous, aujourd'hui, Bon Jouir, nous ne soyons pas dans notre case. Je trouve qu'on est assez raccord avec ce qui se défend sur le bitume autour de nous aujourd'hui.
Et dans bitume,
il y a hume. Et alors à propos de humer, eh bien je sens un doux parfum envahir mes narines. Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? C'est...
Eh bien,
est-ce que ça sent le bitou?
Le bitou,
oui,
c'est quoi?
Le fromage de bite.
Ah, oh là là. Et oui, car après tout, samedi 13h, des fois, c'est plutôt un horaire d'émission culinaire. Alors, le bitou, autrement appelé smegma, d'ailleurs.
C'est cela.
On peut le cuisiner.
Agathe, on avait dit qu'on faisait soft.
Oh, c'est très soft. C'est un conseil cuisine. Alors, si vous vous apercevez que vous avez du smegma autour de votre pénis, eh bien, que faire?
Est-ce que c'est le docteur, la doctoresse qui nous parle?
Eh bien, vous pouvez gentiment le décoller avec votre doigt, le poser dans un...
Le mettre sur une tranche de pain.
Voilà, exactement.
Faire une bonne tartine.
Ou une cracotte sans gluten. Hein, c'est à vous de voir si vous êtes gluten-free ou pas. Et le déguster. Rajouter un tout petit peu d'épices, pourquoi pas un petit peu de thym ou d'aromate. Et hop, voilà un bon casse-croûte. Voilà, bon, alors, en vrai, on dit n'importe quoi.
On a quand même faim, parce qu'il est 13h.
Et bien d'ailleurs, à propos d'avoir faim, Benjamin Bechler, puisque vous prenez en charge les lectures dans le cadre de votre librairie Foutrac dans Bon Jouir, toutes les semaines, alors vous avez une lecture à nous proposer
C'est un extrait du roman Le Festin de Babette de Karen Blixen, et c'est aux éditions Folio.
Oh, bon appétit bien sûr.
Allez, crunch crunch.
Le petit génie roux de Babette ouvrit la porte de la salle à manger. Les frères et les sœurs âgées se lâchèrent la main et passèrent lentement dans la pièce. Le silence se fit, mais c'était un silence heureux car en esprit, ils étaient encore main dans la main et ne cessaient de chanter à cœur joie. Lorsque tout le monde fut assis, le plus ancien de la congrégation dit les grâces en reprenant les paroles même du pasteur. « Puisse le pain de ce jour nourrir mon corps, puisse mon corps toujours servir mon âme, et puisse mon âme louer haut le Seigneur. » Le commis de Babette remplit les plus petits verres. Les frères et les sœurs les portèrent avec gravité à leurs lèvres. Le général Lowenheim, qui nourrissait quelques craintes à l'égard de la cave de la maison, prit une gorgée avec méfiance. Un frisson le parcourut. Il huma le verre, le scruta et le reposa, totalement stupéfait et déconcerté. « C'est incompréhensible, » songea-t-il. « Un amontillado ? Et le meilleur amontillado que j'ai jamais bu ?» Après quelques instants de réflexion, afin de remettre de l'ordre dans ses sens, il prit prudemment une cuillère de soupe et reposa brusquement la cuillère. « C'est complètement incompréhensible, » répéta-t-il. « Ceci est une soupe à la tortue, et quelle soupe ! » Pris d'une sorte de panique, il vida son verre. Le général Lowenheim, qui devait mener la conversation autour de la table, avait raconté à l'assemblée attentive que le recueil de sermons du pasteur comptait parmi les lectures préférées de Sa Majesté la Reine. Mais après avoir révélé cette information, il ne sut plus quoi ajouter. Il jeta un coup d'œil à la ronde et se dit avec une arrogance mêlée de mélancolie « Cela vaut-il la peine que je sois à cette table ce soir ? Cela a-t-il un sens ?» L'harmonie ne serait-elle pas plus parfaite sans ma présence ? Tandis qu'il méditait ainsi, le plat suivant lui fut servi. Dès la première bouchée, il reposa sa fourchette et se passa la main sur le front. « Mais ce sont des blinis demi-d'œufs ! » Il contempla les convives avec le regard d'un homme qui se noie. Il voyait seulement des visages paisibles et sereins qui mangeaient leurs blinis demi-d'œufs sans le moindre signe de surprise ni de plaisir particulier, comme si cela avait été leur lot chaque jour depuis 30 ans. Le garçon remplit à nouveau les verres. Mais cette fois-ci, les frères et les sœurs furent certains que ce qui leur était servi ne pouvait pas être du vin, car cette boisson pétillait. Cela devait être une sorte de limonade. Cette limonade s'harmonisait avec leurs esprits enjoués et exaltés. C'était comme si elle les emportait encore plus loin de la terre, vers une sphère plus pure. Le général Lowenheim reposa son verre et s'adressa à son voisin de gauche. « Mais enfin, voici assurément du veuf Cliquot 1860 !» Son voisin lui adressa un regard amical, acquiesça et lui dit quelques mots sur le temps qu'il faisait. Le garçon avait reçu de Babette des instructions précises. Il ne remplit qu'une seule fois les verres des frères et des sœurs, mais durant tout le repas, il veilla à ce que le verre du général fût toujours plein. Or, le général le vidait rapidement. Car quel recours possède un homme sensé quand il ne peut plus se fier à sa raison ? Mieux vaut être ivre que folle. Il arrivait souvent dans la petite ville que les gens se sentent un peu lourds pendant un bon repas. Mais ce soir-là, ce fut le contraire. Plus les convives attablés mangeaient et buvaient, plus ils se sentaient légers et le cœur allègre. Ils avaient compris que ce n'est pas seulement en oubliant le manger et le boire, mais bien en récusant toute idée de nourriture et de boisson que l'homme mange et boit dans le bon état d'esprit. Le général Lowenheim cessa net de manger et resta immobile sur son siège. Une fois encore, il se sentit transporté à ce dîner à Paris auquel il avait songé dans le traîneau. Un plat extraordinairement recherché et exquis venait d'être servi, et il en avait demandé le nom à son voisin de table, le colonel de Gallifet, qui lui avait répondu qu'il s'agissait de caille en sarcophage. Le colonel avait ajouté que ce plat était une spécialité du restaurant où il dînait, et qu'il avait été inventé par le chef cuisinier du lieu. Bien que, chose fort ahurissante, ce cuisinier fût une femme, on le tenait dans tout Paris pour le plus grand génie culinaire de son temps. « En vérité, poursuivit le colonel de Gallifet, cette femme est capable de transformer le moindre repas servi au café anglais en une sorte d'affaire d'amour, une relation amoureuse éthérée et romantique où l'on ne sait plus faire la part entre l'appétit physique et l'appétit spirituel, voire entre la satiété et la plénitude. » De ma vie, je me suis battu plus d'une fois en duel pour une belle dame. Mais voyez-vous, mon jeune ami, il n'y a pas une femme à Paris pour laquelle je serais plus disposé à verser mon sang. » Le général Lowenheim se tourna vers son voisin de gauche et lui dit d'un ton presque brusque, comme un homme au bon sens reconnu qui se trouve soudain plongé dans la confusion la plus totale, « Ce que vous voyez là, ce n'est autre que des cailles en sarcophage. » Le voisin qui venait d'écouter avec extase la relation d'un miracle le dévisagea et acquiesça, et lui répondit « Oui, évidemment, mon cher frère. Que voulez-vous que ce soit d'autre ?» Le général Lowenheim était parvenu au point où plus rien ne l'étonnait. Lorsque peu après il vit des raisins, des pêches et des figues fraîches, il sourit à son vis-à-vis et fit remarquer « Quel beau raisin !» Et son vis-à-vis de répondre sans hésiter avec un sourire ravi. Ils arrivèrent à la vallée d'Escol. Ils y coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Le général comprit alors que le moment était venu de faire un discours. Il se leva et se tint très droit. Aucun convive ne s'était levé pour prononcer un discours. Les personnes âgées autour de la table tournèrent leurs regards sur le visage impérieux du général, dans une attente pleine de joie et de respect. Ils avaient vu maintes fois des marins et des vagabonds ivres morts sous l'effet du torboyau des bouilleurs de cru, mais ils ne reconnaissaient pas chez un officier éblouissant et un homme de cour l'ivresse causée par le vin le plus noble au monde.
Sur Canal B. Merci Benjamin Bechler pour cette belle lecture.
Mais je vous en prie Agathe, c'est toujours un plaisir.
Puis ça fait plaisir de voir que vous avez su choisir un texte tout à fait entendable un samedi à 13h.
Eh bien sûr, après avoir parlé de fromage de bite, vous pouvez enchaîner sur du plus soft.
Bon, alors à propos de plus soft, là on va carrément changer d'ambiance puisque nous allons...
C'est l'heure d'être sérieux.
Oui, exactement, c'est l'heure du sérieux. Nous allons revêtir nos vêtements de sérieux. Alors dans Bon Jouir, nous allons recevoir aujourd'hui deux jeunes femmes très militantes, très engagées pour une cause qui évidemment est hyper importante, qui est celle de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. On y va ?
C'est parti.
Bonjour Christelle Bravard et Laura Levrel.
Bonjour Agathe.
Salut Agathe.
Bienvenue dans Bonjouir.
Merci.
Alors, ce qui est important, c'est pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui et dans quel cadre vous collaborez l'une avec l'autre ? Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'appelle votre association ?
Alors, l'association s'appelle Penser les mots, avec une écriture un peu particulière, c'est P-A-E-N-S-E-R, plus loin les, plus loin mots, M-A-U-X. L'asso, elle existe depuis mars 2021, mais en fait, elle existait déjà depuis super longtemps dans ma tête et dans mon cœur, on va dire. Et en fait, avec Laura, on a eu un coup de cœur amical, enfin d'abord au travail et ensuite amical, et en fait, elle a rejoint l'asso et elle m'accompagne dans les projets, dans tout ce qu'on développe.
Très bien. Ça fait combien de temps du coup, toi, Laura?
Moi, je suis une ancienne collègue de Christelle. Donc, moi, j'ai suivi un peu le démarrage de l'asso Penser les mots. Voilà, l'objectif de l'asso, c'était de faire de la prévention autour des violences sexistes et sexuelles. Mmh. Et voilà, moi, je suis maman de deux petites filles de 4 ans et 7 ans. Et en fait, ces sujets-là, autour du consentement, de l'égalité filles-garçons, bah, pour moi, c'était important. Et c'est vrai qu'avec Christelle, ça a tout de suite matché. Donc, au départ, moi, je suis chargée de com à la base. Donc, d'accord. Je l'ai aidée un petit peu sur... créer des comptes sur les réseaux sociaux, tout ça. Puis finalement, je suis devenue membre de l'asso et puis ça s'est fait en fait assez naturellement. Et puis voilà.
Moi, j'avais juste mon envie. J'ai rencontré plein de monde avant de lancer l'asso pour parler de mon projet. Du coup, à la campagne, j'ai rencontré la responsable de la médiathèque de la SI, Chane Lavigne. J'ai rencontré plein d'acteurs et d'actrices locales. Voilà. Et puis, j'ai vraiment ressenti un réel besoin, plein d'encouragement. Et parler avec des parents aussi, des pères, des mères. Du manque d'éducation pour les enfants à la vie sexuelle et affective, pour les jeunes, de l'égalité pour les plus petits. Enfin voilà, c'est vraiment des sujets qui ne sont pas du tout abordés, on va dire, au niveau de l'éducation dans les écoles, etc. Ça me tenait vraiment à cœur de proposer cet axe-là déjà, pour mener des petits ateliers gratuits, et aussi surtout l'axe de reprise de confiance en soi pour les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles,
oui.
Et donc du coup travailler avec des professionnels. Quand on reliste en fait tout ce qu'on a fait depuis 2 ans, c'est vrai que c'est assez formidable d'avoir réussi à monter tout ça en étant juste bénévole et en ayant toute la vie qu'il peut y avoir à côté, quoi.
Oui, c'est ça, parce que quand je t'entends parler, c'est un peu ce qui me vient. Et je me dis, les gens ne se rendent pas forcément compte, non. Parce que ça paraît évident. Et puis même les gens, et je parle aussi les politiques, c'est quand même, vous prenez en charge des sujets très importants, des sujets sociaux, d'éducation, des masses, entre guillemets, quand même, et qui sont des sujets qui ont été un peu abandonnés et laissés de côté par le politique. Et vous, bénévole, vous vous emparez de tout ça, en plus de la vie normale, enfin classique, civile, on va dire. C'est quand même, les gens parfois ne réalisent pas ce qu'il faut d'énergie, de motivation, de foi, mener tout ça.
De foi, de rage, de colère aussi qui anime, tu vois, parce que, enfin, par exemple, on était au festival Frénésia la semaine dernière à Breteuil, grâce à Urban Braise. On est là aussi en prévention pour parler aux personnes et pas forcément monter des ateliers, mais aussi réorienter les personnes, parce que tu vois, on n'est pas, enfin, moi, je suis pas juriste, je suis pas psychologue. Dès que tu affiches violence sexiste et sexuelle, il y a toujours au moins une personne, enfin là, en l'occurrence, il n'y en a pas eu qu'une, mais qui t'interpelle, qui a des questions, et en fait, on réoriente aussi vers les bonnes institutions qui sont en place sur le secteur. Mais c'est vrai que c'est une... Ouais, c'est ça, c'est la foi, quoi. C'est de se dire, faut le faire parce que les politiques ne s'en emparent pas, quoi.
Ben non. Et il y a une vraie responsabilité aussi. J'imagine qu'on ne se lance pas là-dedans. C'est pas comme monter un atelier de macramé. C'est bon, là, on peut se dire qu'on a un niveau moyen de macramé. C'est pas très grave. Mais c'est là, ça. Il faut savoir de quoi
on parle.
Et être dans ce rapport d'écoute aussi, de pouvoir, comme tu disais, orienter. Ça s'apprend, ça, ou c'est quelque chose d'inné?
Je pense que le côté écoute, ça peut être, enfin en tout cas moi je pense que de mon côté c'est inné, et sinon effectivement ça s'apprend. Moi j'ai fait j'ai fini le cycle de formation avec le collectif Féministes contre le viol à Paris, qui ont un numéro gratuit depuis 1986, c'est Viol Femmes Info. Donc ça, c'est vraiment des femmes pour moi qui sont vraiment incroyables, dont la présidente Emmanuelle Piette. Elles ont une expérience de 40 ans autour de ces questions-là, avec des grandes connaissances juridiques aussi. Et donc elles redistribuent leur savoir gratuitement, soit à des assos, à des professionnels dans le social, etc. Et donc du coup moi je suis le cycle de formation pour ces questions-là. Et nous, nos ateliers, en fait, on travaille avec des professionnels. Parce que comme tu dis, on ne va pas s'amuser à se pointer dans une école ou à parler à des enfants de 3 ans sans connaître la jeunesse, ce qu'on peut dire ou ce qu'on ne peut pas dire. Donc on travaille notamment beaucoup sur les ateliers jeunesse avec Suzanne Joly, dont c'est le métier, elle est formatrice et c'est Suzette d'École les étiquettes. Et donc elle est vraiment super chouette. On s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an et depuis, du coup, on monte les ateliers ensemble. Nous on démarche et puis elle intervient du coup avec enfants, ados et même adultes aussi, quoi.
Et alors en quoi ça consiste un atelier avec des petits, par exemple? Comment est-ce que, parce que là j'ai en tête quelqu'un que j'avais rencontré qui m'avait parlé. Et je me suis dit, super, je viens de croiser un complotiste, ça fait plaisir. De cette fameuse idée que l'OMS, bien sûr, a que ça à faire et déciderait d'imposer des cours d'éducation sexuelle à l'école où les enfants, il y en aurait un garçon qui se mettrait nu, une fille qui se mettrait nue et ils montreraient comment on fait une fellation et tout ça. Cette vague complètement flippante de gens qui pensent que éducation sexuelle à l'école, c'est une sexualité d'adulte qu'on amène chez nos petits.
Et comme la question du genre aussi. En fait, quand on veut parler, d'identité sexuelle ou de genre à des enfants, les gens pensent qu'on va leur dire à 3 ans que tu peux changer de sexe, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment absolument pas ça. En fait, c'est vraiment dans un souci de bienveillance, d'acceptation de l'autre et de tolérance. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas de corps ou d'opérations qui sont montrées en direct. C'est vraiment une méconnaissance qui amène de la peur et de l'agressivité du coup.
Nos ateliers, ils sont vraiment... on a fait plusieurs ateliers, notamment dans des médiathèques, par exemple, avec des petits, des 3 ans, comme tu dis. Et c'est plutôt, en fait, de parler des stéréotypes. Par exemple, dans la cour d'école, est-ce que vous remarquez qu'il y a plutôt les garçons, plutôt les filles qui jouent au foot? Ou alors, est-ce que toi, tu connais un petit garçon qui va porter des pulls roses? Qu'est-ce que t'en penses? C'est plutôt de les faire réfléchir, en fait, sur ce qu'ils vivent au quotidien et de se dire, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu penses que les garçons, ils n'ont pas forcément le droit de mettre du rose? Le droit de pleurer. Donc on part en fait au départ du vestimentaire, de ce qu'ils vivent au quotidien pour les questionner. Et en fait, déjà entre eux, il y a tout un tas de choses et on part de ça. On part pas du tout, effectivement, comme certains peuvent le dire sur les réseaux sociaux, des groupes de parents, justement... de parler de fellation, enfin jamais de la vie quoi.
Mais ce qu'il y a de fou, c'est que les gens ont tellement peur de entre guillemets leur propre sexualité, leur propre relation à leur désir, qu'ils transmettent, ils transposent tout à fait ça et ils vont en faire un objet tabou vis-à-vis de leurs enfants. Et heureusement, vous êtes là et plein d'assos et de gens qui militent. Et c'est vrai que c'est flippant comme tout. Démarre un peu n'importe comment, se tabouifie et puis après devient effectivement la voie royale pour les violences sexistes et sexuelles. C'est un peu comme ça que ça se joue, non? Peut-être.
Ouais, carrément, parce qu'en fait, je pense qu'il y a vraiment, comme tu dis, une transposition soit d'une sexualité pas assumée ou des choses qu'ils ont peut-être vécues qui étaient graves, mais c'est vraiment pas ce genre de choses. On va pas parler du viol à un enfant de 3 ans. En fait, quand on parle du corps, c'est juste mon corps, c'est mon corps. Connaître les parties du corps avec les bons mots, la vulve, le pénis, la poitrine, l'anus, et c'est tout. Parce qu'en fait, parler de la vulve, c'est comme parler d'un bras ou d'une jambe. C'est juste une partie du corps. Donc en fait, on n'est pas dans apprendre la pénétration anale à un enfant. tu vois, c'est vraiment.
Et heureusement, j'ai envie de dire.
Voilà, c'est ça. Donc il y a un âge pour tout et c'est pour ça aussi qu'on travaille. On réfléchit à monter nos propres ateliers. Il y a plein de choses autour des jeux de société. Et tu vois bien là tous les ateliers qu'on a fait avec Suzanne, notamment avec les enfants. Ils sont super contents de pouvoir parler entre eux aussi de ça, de ce qu'ils vivent, soit à la cour d'école ou à la maison.
Oui.
Il suffit de pas grand chose en fait, un livre, un support, un livre ou une chanson là comme on aime beaucoup Suzanne aussi, elle utilise le livre de Marion Rouxin qui est vraiment génial, le livre CD. Là elle fait aussi des spectacles, elle a beaucoup tourné en Bretagne d'ailleurs, elle a été aussi bien critiquée sur les réseaux, elle a subi des agressions très violentes. Et en fait des petits supports comme ça, et en fait c'est aussi créer les choses entre eux quoi. Leur donner des espaces de parole. Là, dernièrement, on a fait une conférence notamment sur le genre avec Christophe Pecker, un sociologue formateur. C'était à direction des adultes et c'était super intéressant. La conférence était complète. C'était suite à un cycle de rendez-vous sur la ville de Saint-Senoux, donc à côté de Guichen. Et il y avait eu des lectures qui ont été faites à des enfants de 3 à 6 ans dans la médiathèque et ça a été repris par des groupuscules d'extrême droite qui sont venus manifester devant la médiathèque parce que du coup c'était des intervenants.
C'était pas vraiment manifesté d'ailleurs, c'était cagoulé, fumigène.
C'était très très violent pour pour les personnes déjà qui animaient, qui proposaient ces activités, les parents qui emmenaient leurs enfants. Les enfants, heureusement, eux ont vécu l'atelier de manière très cool, avec les trois intervenants et intervenantes qui étaient présentes, déguisées, maquillées, et qui ont juste proposé des lectures sur l'ouverture.
C'était plutôt une prestation artistique,
en fait. C'était une prestation artistique. Une fois, ça a été rattrapé par « qu'est-ce que vous montrez à nos enfants ? Pourquoi vous faites ça ?» Enfin, vraiment, ce côté incompréhension, jugement et évidemment pas d'échange et beaucoup de violence. Donc, ce qui a été chouette, c'est qu'il y a un collectif qui s'est monté derrière, le collectif du 13 mai. Il y a eu une manifestation colorée juste avant notre conférence. C'était magnifique parce que du coup, il y a une grosse mobilisation de la population. Mmh. Tout le monde est venu maquillé, habillé, coloré. C'était vraiment, vraiment chouette de voir ça. On continuera en fait, c'est tout. On continuera.
Mais bien sûr, il ne faut pas laisser la place à l'obscurantisme et à la bêtise.
C'est important, je trouve, de ce que le collectif du 13 mai a fait pour cette soirée, là, de se retrouver. C'était de reprendre une bonne grosse dose d'amour et de tolérance. Et c'était super chouette, quoi.
Parce que nous, c'est vrai qu'on est ouverte à l'échange. Et justement, voilà, on sait qu'il y a différents points de vue. Mais par contre, là, c'est vraiment une confrontation. Ouais. Ça ouvre pas vraiment le débat de dire, on peut essayer de se comprendre, en fait.
Ouais. C'était vraiment un rejet total de l'ouverture des styles de famille qui peuvent exister. C'était des propos très violents, mais par contre les personnes qui n'étaient pas d'accord, on les laisse s'exprimer jusqu'au moment où tu dépasses la ligne du respect. Là c'est pas possible, en fait.
Alors dans penser les mots, comme tu l'as décrit tout à l'heure, il y a le A qui a évidemment qui fait sens. C'est pas juste pour ajouter une voyelle, parce que A c'est penser, c'est soigner,
ouais.
Donc c'est aussi cet axe, donc il y a le côté mot, éducation, etc. Et éveille un peu des consciences.
Ouais.
Mais vous avez aussi cette branche du pansement, entre guillemets.
C'est ça. On travaille avec Aurélie Budor, qui est comédienne, qui fait des seuls en scène. Là, elle va bientôt faire un deuxième seul en scène. Elle fait des choses incroyables. On fait du théâtre de l'opprimé. Elle anime donc théâtre de l'opprimé, théâtre image. On a déjà fait 3 stages. Et le dernier stage qu'on a fait, on a réussi à le faire sur 4 jours au domaine du Bertry, à la Bouexière, à côté de Liffré. Merci beaucoup, Vincent et Karl, pour l'accueil extraordinaire de notre groupe de 12 femmes pour vivre 4 journées incroyables ensemble de sororité. Et c'était vraiment incroyable parce que, en fait, c'est des outils qui permettent, sans se confier vraiment, en travaillant avec ton corps, ta posture, tes expressions, en fait, on s'est rendu compte qu'on était toutes et tous reliés par, malheureusement, les violences sexistes et sexuelles.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est dur. Mais c'est nécessaire et du coup, ça donne aussi une force incroyable de travailler ensemble comme ça sur 4 journées complètes. Donc c'était vraiment très très beau, très très chaleureux et on espère pouvoir le refaire.
Quand tu dis que vous étiez réunis, ou on est, je crois que c'est pas que,
oui, c'est
que vous, on va englober je crois à peu près tout le monde. C'est aussi une question de méconnaissance de où commence peut-être la violence sexiste et sexuelle. Alors on en parle de plus en plus quand même depuis quelques années, mais est-ce qu'il n'est pas bon aussi de rappeler ça? Où est-ce que ça commence une violence sexiste et sexuelle?
Malheureusement, comme tu dis, c'est la méconnaissance encore aujourd'hui. Moi, clairement, dans mon entourage, j'ai des jeunes filles d'à peine une vingtaine d'années, puis j'ai ma fille aussi qui a 15 ans et demi. Et en fait, pour moi, c'est vraiment important parce qu'en fait, où ça commence, c'est juste où en fait, t'es pas d'accord, tout simplement. Et vraiment, le truc, c'est que, ne serait-ce qu'un mot proféré dans la rue, si t'as pas envie de l'entendre, ça, c'est déjà une agression sexiste. Et après, si on passe sur une agression sexuelle, ça va être ce qu'on peut dire attouchement sur les parties intimes. Donc, ça va être la poitrine, la vulve, une main aux fesses. Ça, c'est une agression sexuelle. Donc, si t'as des frotteurs dans les transports, là, je pense que les gens ont été un peu scotchés que 100% des femmes qui ont pris les transports ont subi une agression sexuelle. C'est pas des chiffres qu'on sort comme ça, c'est la réalité.
Le conseil à l'égalité.
Enfin, ça devrait être, en fait, dans toutes les familles, dans toutes les boîtes aux lettres, tout le monde devrait le lire pour vraiment prendre conscience à quel point les jeunes filles, les jeunes femmes, les trans, tout le monde se subissent ces genres d'agressions. C'est d'une violence incroyable. Donc, Ouais, quand je parlais tout à l'heure d'orage, tu vois qui m'anime, c'est ça aussi, mmh. C'est parce que toi t'es bénévole, tu fais ton truc et en fait tu vois les politiques et tu vois la justice surtout, mmh. Mmh. Que t'as 1% des violeurs qui sont condamnés, que tu peux, en fait vaut mieux violer un enfant que dealer du shit parce que t'iras pas faire de la prison ferme.
Ouais.
Y a André Abescon sur Instagram qui partage systématiquement toutes les violences qui peut y avoir lieu avec les jugements, etc. Et c'est dur, mais il faut les voir, il faut les lire, parce qu'en fait, c'est ça notre réalité, c'est la justice maintenant, aujourd'hui. Là. C'est parce que les bénévoles, nous, on se mobilise pour faire de la prévention, mmh. Mais à encourager les femmes à aller porter plainte, et les hommes aussi qui subissent des viols ou de l'inceste. Mais en fait, derrière la justice, quand je connais les chiffres derrière, ça me fait mal au cœur, quoi. Ça me révolte, ouais.
Bah oui, parce que c'est pas qu'une question de justice sociale, mais c'est une question, ouais, de réparation personnelle.
Exactement,
en fait.
C'est ça.
Ouais.
C'est vraiment ce côté réparation où tu déposes ta plainte et puis bon, bah déjà quand ça se passe bien, on va dire, hein, quand les personnes ont été formées à l'accueil de la parole de la victime, c'est déjà un grand pas. Le CFCV aussi forme des gendarmes, il y a du monde qui se mobilise au planning familial pour former les gendarmes à l'accueil de la parole, mais après c'est derrière en fait, il y a besoin de réparation, parce que toi tu continues avec ton parcours, mais si la justice ne te croit pas, ne répare pas, s'il n'y a pas de procès, on va souvent en fait, ce qui va être fait, c'est que le viol va être requalifié en agression sexuelle. Donc, en fait, ta violence n'est pas reconnue.
Ouais.
Donc, du coup, bah, tu continues ta vie comme ça, quoi. Et c'est juste pas possible, quoi, en fait.
C'est pour ça aussi que l'objectif, c'est plutôt aussi d'en parler, ouais, de lever les tabous, de dire, dès l'enfance, de parler du consentement, de dire, mon corps, c'est mon corps. Et de pouvoir aussi identifier, de dire, ce comportement, il est pas adapté, c'est pas possible, en fait. Pour déjà que les personnes victimes puissent se rendre compte que c'est pas ok en fait.
Moi, c'est une question que je me pose des fois dans l'émission, mais je sais pas si c'est la bonne question, vous allez me dire.
vas-y.
Mais moi, je me dis, j'ai eu deux filles, donc voilà. Mais des fois, je me demande un peu où sont passées les mères de garçons et quel chaînon manque en fait dans l'éducation des garçons, justement par rapport à ces histoires de consentement, d'attouchement, de respect de l'autre sexe. Mmh. Et alors, je dis pas que toutes les violences sont masculines, elles le sont.
Pardon. 95%.
Ouais, voilà. Bon, mais j'essayais d'être un peu sympa. Désolé, avec les 5% qui nous écouteraient, qui seraient un peu cool. Ouais. Tout n'est pas de la responsabilité des parents non plus. C'est pas l'idée de culpabiliser les mères. Mais c'est souvent
Ni les mères, ni les pères, parce que c'est vraiment, en fait, c'est une question de société. Enfin, c'est vraiment le patriarcat, le pouvoir de la masculinité, le masculinisme, c'est tout ça qui gangrène et les mamans mères de garçons, enfin vraiment, moi je les vois faire tout ce qu'elles peuvent, leur parler de consentement, leur parler toutes ces choses là mais après tu peux pas tout maîtriser, t'es pas non plus responsable de l'acte que va commettre ton fils, et il y a plein de choses autour, enfin voilà, le porno qui est accessible comme ça en... Enfin, pareil, les chiffres, quand tu vois... Enfin, voilà, ouais. Je connais peut-être trop les chiffres. c'est cette accessibilité-là où, en fait, le porno, c'est pas l'éducation à la sexualité, c'est pas la vie, quoi.
Non.
Et du coup, les garçons, ouais, enfin, nous, on les invite aussi à venir dans nos ateliers, parce que des fois, on les fait en mixité, mais aussi en non-mixité, parce que, enfin, ils ont besoin, ils ont le droit, tout autant que les filles, à tous ces échanges-là, pardon, et surtout à comprendre que, eux, c'est pareil, c'est le plaisir, c'est ensemble, c'est on apprend, on s'écoute et vraiment, ouais, on se parle, quoi. Si on a des pulsions, on essaye de les contrôler ou on va en parler à quelqu'un. Si tu te sens que là, c'est trop, trop lourd pour toi ce que t'as en toi, voilà, tu trouves un adulte référent et tu vas discuter de ces choses-là. C'est des questions qui sont de société, qui sont sociétales, quoi. Vraiment, je trouve que, ouais, il y a un gros vide, là, et c'est pas cool que ce soit que les assos qu'ils prennent en main, quoi, vraiment.
C'est ça, ouais, comme tu dis, ouais, c'est sociétal, en fait, ouais, de se rendre compte que... Enfin, moi, j'ai une petite fille qui est en moyenne section, et elle me dit, maman, mon rêve, c'est d'être un garçon, parce que je peux faire plus de choses, quoi. Mmh. Je me dis, déjà, elle a 4 ans, enfin... Alors que pourtant, on lui propose plein de choses, mais malgré tout, à l'école, elle a ce sentiment que d'être une fille, eh ben, c'est pas un avantage, en fait.
Il y a des écoles qui se mobilisent justement pour enlever ce pouvoir de la, comment dire, de la place de...
Du ballon.
Du ballon rond.
Oui.
Voilà, ou en tout cas, le partager équitablement et en mixité. Ça se passe aussi un peu du côté de notre campagne sur Guichin, Gauvin, tout ça, où on réfléchit à réaménager les cours d'école, parce que oui, effectivement,
ouais,
ça en fait partie, quoi.
En fait, ça pose déjà un cadre de se dire qu'en fait, bah, les garçons, avec leur ballon, ils ont toute la place, quoi. Ouais. Et les petites filles, elles vont aller dans un petit coin, elles vont aller discuter. Donc, en fait, déjà, ça crée une inégalité, en fait, mais qui est induite et ils ne s'en rendent pas forcément compte. Mais bah, c'est comme ça, en fait.
Sur Canal B.
On a une super librairie qui a ouvert à Guichen qui s'appelle Refuge avec Cassandre du coup qui s'en occupe. On a fait une rencontre littéraire avec Aurélie Fontaine du podcast Bretonne Féministe. Ouais. Elle a écrit un livre qui s'appelle Ce que peuvent les garçons qui justement du coup c'est pour montrer des modèles. En fait c'est ce qu'on disait, en fait les garçons aussi ont besoin d'autres images que de, je sais pas moi, de footballeur, de rugbyman, etc. C'est les garçons, bah, y a un petit garçon qui fait de la couture, il y a des pom-pom boy, j'ai trouvé ça trop génial. C'est une équipe, je crois qu'ils sont dans le nord de la France en fait, qui s'est montée, c'était une équipe de roller derby, okay. Qui a dit nous aussi on veut des pom-pom boy du bah coup, oui. Et c'était, oui. Et c'est super, et on a fait une soirée, une rencontre, tu vois, c'est aussi ça, c'est créer des moments dans notre petite campagne là, pour discuter de ces petits sujets là autour du livre. Je remercie d'ailleurs beaucoup Aurélie d'être venue pour cette soirée là qui était trop bien.
Ouais. C'est vrai que l'objectif aussi de tout ce qu'on fait, c'est de sensibiliser tout le monde. Que ce soit homme, femme, grand-père, grand-mère, oncle, tante, pour aussi que les enfants qui vont grandir confrontés à des personnes plus tolérantes, parce que parfois c'est vrai qu'on peut avoir, on peut être maladroit en fait dans notre façon de nous exprimer. Nous-mêmes dans l'asso, on se disait est-ce qu'on parle qu'aux femmes, est-ce qu'on parle aux non-binaires, enfin voilà, il y a tout un tas de sujets en fait, et nous on évolue aussi avec ça en fait, avec la société quoi. Ouais. De se dire on connaît pas tout, mais voilà, on va rencontrer des personnes et on va s'adapter quoi.
Mais on va écouter d'ailleurs Eddie De Preto avec Kid.
Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à fer et dopé de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle.
Sur Canal B.
Alors, on est toujours en compagnie de Laura et Christelle de l'association Pensez les mots. Mais Pensez les mots, vous êtes où d'ailleurs, vous ?
On intervient pour l'instant en local, donc c'est le pays des Vallons de Vilaine, donc c'est Gauvin, Guignin, Guichen, donc Lassy forcément. On travaille aussi en partenariat avec l'asso Les Aigantes Courbes de Bru. On a déjà fait deux festivals avec elle, c'est une asso qui milite pour le body positive.
D'accord.
Et aussi contre l'endométriose, enfin en tout cas pour en parler. On est est sollicité, mais du coup, on manque vraiment de bras. Donc, si tu nous entends et que tu as un peu de temps libre, voilà, on recherche vraiment des bénévoles. On est trois avec donc Laura, il y a Eve Joigny, que j'ai rencontrée ça fait quelques mois. Et en fait, elle a participé à un atelier théâtre de l'opprimé. Et en fait, elle a intégré l'asso. En tout cas, elle nous aide beaucoup. Elle pense que non, mais si. on a besoin de monde. Tout ce qui est dossier de montée des subventions, tout ça. Merci du coup au département, à la région. On a aussi le ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports qui nous donne des subventions, mais c'est vrai que
c'est du boulot.
C'est du boulot, c'est lourd. Et puis,
surtout qu'on aimerait pouvoir se concentrer. Enfin, en tout cas, toi, Christelle, énergie, c'est plus dans rencontrer les partenaires, etc. Donc, si on peut être accompagné là-dessus, c'est vrai que c'est chouette.
C'est un appel à bénévoles.
C'est ça.
Toi qui reviens du marché des Lys, peut-être, avec ta galette saucisse fraîchement avalée, ton panier plein de fruits et légumes de printemps, peut-être réfléchis au temps que tu as et que tu pourrais prêter et que tu pourrais investir dans cette association. Ce serait vraiment chouette.
Après, nous, c'est même ponctuellement, en fait. Comme on fait des événements régulièrement, c'est de venir sur un stand, de venir avec nous sur un atelier ou alors même à distance, en fait, de nous filer un coup de main ou nous donner des idées. Nous, on est vraiment ouvertes.
Alors, comment on fait d'ailleurs pour vous contacter? Ça peut être déjà une bonne...
Sur les réseaux sociaux.
Ouais.
On est sur Instagram, on est sur Facebook, LinkedIn. Pensez les mots.
Ouais.
Tout attaché.
Ouais.
Pour nous trouver. Donc là, vous pouvez nous envoyer un message privé.
Et puis on a l'adresse Gmail. Et où il y a, sinon, moi, en fait, le numéro de portable de l'asso, c'est mon portable.
D'accord.
C'est aussi un de nos rôles, comme je ne sais pas si je l'ai dit déjà, mais c'est de. Voilà, quand on est contacté par des personnes en direct, comme ça, qui ont des questions, c'est que je renvoie vers, comme je disais, j'ai déjà dû le dire, vers les bonnes instances, le CIDFF, le planning, etc. Ou Viol Femmes Info. Aussi, quoi.
Ok.
Comme tu nous demandais où on était, nous, on est volontairement et définitivement basé à la campagne, parce qu'en fait, à Rennes, t'as quand même vachement de chouettes, belles assos qui existent. Il y a vraiment des belles choses qui se passent. Par contre, chez nous, là-bas, pourtant, c'est qu'à 20 minutes de Rennes, il n'y a que dalle, quoi.
C'est ça, il y a vraiment un vrai gap entre la ville
C'est ça.
L'offre, en fait, l'offre rennaise et le reste, en fait, et le reste du monde. Mais où, en fait, c'est vrai que si on veut s'informer, faut tout de suite avoir une voiture, pouvoir aller à Rennes. C'est pas idéal. Là, on va à la rencontre des gens. Et c'est pour ça qu'il y a aussi de nos projets. Ce serait d'avoir un petit camion pour pouvoir aller aussi directement à la rencontre des habitantes et habitants, de pouvoir. Peut-être une petite librairie aussi ambulante.
Parce que du coup, on a comme on se renseigne, qu'on apprend aussi au travers des livres, on a notre bibliothèque de l'asso qui s'agrandit aussi avec des jeux de société. Et en fait, l'idée, ça serait genre un petit minibus et nous bouger partout dans la campagne, dans les villages reculés et proposer des moments, des temps d'échange comme ça.
Bon, mais qu'est-ce qu'il vous faudrait pour ce petit minibus? J'ai l'impression d'être sur France Inter.
C'est ça.
Enfin, alors, notre marché.
c'est un rêve à plus ou moins long terme, mais ce qu'il nous faudrait, soit c'est quelqu'un qui a un camion, ça serait un mécanicien ou une mécanicienne qui pourrait nous aider à le retaper. Et ce serait génial, en plus, de réussir à le peindre avec les jeunes du coin et tout. Que ce soit un projet collectif et local pour que ça puisse vivre et que nous, on puisse vraiment bouger dans la campagne reculée, Campel, Beauvel, tout ça, où on ne va pas encore et où on aimerait aller plus facilement, en fait.
Nous, c'est des gens, en fait. On a besoin de gens, en fait, parce que...
Les gens.
Clairement,
les
gens. Mais c'est vrai, pour monter tout ça, il nous faut des personnes, quoi.
Ouais.
Alors aujourd'hui, d'ailleurs, à propos de gens, il y en a plein. On va sortir des studios de la radio et on va tomber sur la Marche des Fiertés.
Ouais. Yes.
Donc là, il y a carrément un vivier, presque, potentiel. Mais c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir se dire que c'est aussi cet engagement, il passe par une sorte de militantisme vraiment très fort au quotidien.
Ouais.
Et aussi ponctuellement par le côté festif et pouvoir allier tout ça. Quand je vous écoute et que je repense au cortège, je me dis c'est quand même aussi une complémentarité et faire en sorte que tout ça soit joyeux. C'est du travail, mais c'est forcément une charge, une responsabilité, mais c'est aussi du plaisir.
Ah, c'est de la joie, mais vraiment.
C'est de la joie. Ouais, carrément. Je dis ça, c'est vrai. Pour inciter le... mais c'est important, je crois, aussi, de remettre un peu ça.
Enfin, voilà. Et c'est pas parce qu'on parle de sujets graves que c'est pas dans la joie et le bonheur, quoi. On va pas se pointer avec une tête de 10 pieds de long près des gamins, des ados.
Non. Surtout que c'est plutôt puis, ludique, nos ateliers.
Mais ouais, carrément.
Tous nos ateliers sont hyper ludiques, avec, comme tu disais, des supports, des jeux. C'est pas sinistre, quoi. Ouais. On balance pas des chiffres. Pas du tout, quoi.
Non, et puis c'est ça. Et puis, comme ton émission s'appelle Bon Jouir,
tout à fait.
N'oublions pas que la sexualité, c'est que du bonheur, quoi. C'est aussi ça, en fait.
Oui.
Que d'ouvrir les champs du possible sur la sexualité, le plaisir solitaire, le plaisir ensemble, enfin vraiment quoi. Voilà, dans cette marche des fiertés où on ira défiler coloré aussi et des grands sourires toutes et toutes ensemble, ça c'est hyper important pour nous quoi. Que chacun puisse et chacune puisse se sentir bien et ouais, c'est ça, juste ça, être ensemble, se marrer.
Et puis bah, comme tu l'as dit, c'est le plaisir aussi sans l'injonction à la jouissance et au plaisir, attention.
Oui.
Mais en tout cas, c'est aussi savoir s'auto-faire plaisir parce que parfois, c'est bien de pouvoir compter sur soi.
Mais c'est vrai.
Et puis, de toute façon, quand on connaît son plaisir ou qu'on s'apprivoise sexuellement, personnellement, on est aussi plus à même de pouvoir poser des barrières, dire ça oui, ça non.
Exactement.
C'est aussi ça, le consentement. Mmh. C'est,
Mais carrément, ça passe vraiment par la connaissance de soi, de son corps, et après du plaisir solitaire. Et je pense qu'une fois que tu connais ton corps et que tu sais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, etc., c'est tellement plus simple aussi de le dire à l'autre et aussi du coup de demander à l'autre, toi, qu'est-ce que tu aimes, etc. Et voilà, mais comme tu dis, pas d'injonction à la jouissance.
Non.
c'est important.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est une transition assez trouvée pour le deuxième morceau et c'est une programmation que vous avez soumise aujourd'hui et ça me fait hyper plaisir d'accueillir ces deux morceaux. Donc on a eu Eddie de Preto tout à l'heure et là c'est évidemment, c'est quand même une sorte d'idole un
peu.
C'est ça. C'est quand même un panthéon du cul.
Exactement.
Joyeux.
Ah, j'aime beaucoup ça.
C'est Colette Renard qu'on n'a pas écouté depuis la première émission de Bon Jouir à l'automne 2019. Ça me vieillit un peu. Avec évidemment les nuits d'une demoiselle.
Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais savrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Les violences sont extrêmement traumatisantes. Elles vont avoir un impact lourd sur la personne, sur le cerveau, et vont générer en fait un ensemble de mécanismes de sauvegarde exceptionnels qui vont être à l'origine de la presque totalité des conséquences psychotraumatiques sur les personnes de ces violences. Le point de départ, c'est justement la sidération. C'est-à-dire que, en fait, face à des violences qui sont terrorisantes, incompréhensibles, impensables, qui n'ont aucun sens, la personne en face ne peut pas intégrer ces violences. Elles font effraction, en fait, dans sa capacité de les penser. Et il va y avoir ce qu'on appelle une paralysie des fonctions supérieures. C'est-à-dire que tout ce qui, en fait, normalement devrait permettre d'agir, de réagir, d'analyser les violences, va être bloqué. Et les personnes vont se retrouver vraiment dans une situation où elles ne vont pas pouvoir parler, crier, se défendre sur le plan psychique, mais aussi sur le plan moteur. Elles vont être aussi immobilisées.
Alors, on a enchaîné Colette et Muriel. C'est un enchaînement un peu...
Ah, voilà,
c'est un chaud-froid un peu.
Oui, c'est ça. C'est un chaud-froid, mais ouais... nécessaire, je pense, parce que Muriel Salmona, du coup, quand elle parle de ces sujets-là, moi, j'ai Aurélie Budor m'avait prêté le livre noir des violences sexuelles, et en fait, ça a été une révélation pour moi quand elle parle d'amnésie traumatique, quand elle parle de tous ces sujets-là, où en fait, souvent, en fait, quand t'es victime et que tu te mets à parler 10 ans, 15 ans, 40 ans après les faits qui te sont arrivés, ce qu'on va te dire tout de suite, c'est mais si c'était vrai, t'aurais pas avant.
Mais bien sûr, enfin.
Voilà. Et en fait, c'est ton cerveau qui te protège, qui bloque tout ça pour t'épargner et pour que tu puisses survivre. Et moi, c'est ce que j'ai eu du coup. Moi, j'ai été violée dans mon enfance. J'ai fait une amnésie traumatique. J'ai eu plusieurs agresseurs sexuels. Et dans ma petite enfance, quand c'est ressorti, en fait, la première personne à qui j'en ai parlé, c'était... l'ouverture de ma sexualité, on va dire à 18 ans, je comprenais pas trop ce qui se passait, je voyais bien que j'étais pas bien. C'est remonté et en fait, c'est ça que j'ai entendu comme première phrase et en fait, c'est aussi pour ça que l'asso est né. Voilà, j'espère diminuer beaucoup enfin, je veux plus que cette phrase existe. En fait, c'est pas possible. C'est je te crois et tu n'es pas seul.
Oui.
C'est pas c'est faux, mais qu'est-ce que t'inventes ? C'est pas possible quoi. Donc c'est vraiment important d'aller écouter si vous voulez ou lire le livre de Muriel Salmona sur les violences, le livre noir des violences sexuelles, parce qu'elle elle explique vraiment, et je trouve que c'est... ça fait comme... je sais pas comment dire, pour finir sur une note positive, c'est que vraiment ça sauve, c'est que tu te sens plus seul et que c'est vrai, c'est ton corps qui t'a protégé.
Mais c'est ça, c'est ça qui est saisissant, je trouve, dans la façon dont elle en parle, de façon... très
médical
et c'est très concrète en fait, hein. c'est vraiment ça se passe comme ça à l'intérieur. Exactement. Du cerveau, les hormones, etc. Et cette explication là, elle peut être tout à fait libératrice et déculpabilisante, parce que c'est évidemment toujours sur les victimes que pèse la culpabilité.
C'est arrivé, c'est que j'étais d'accord. Mais si c'est arrivé, c'est que c'est je le voulais. C'est moi qui suis sale et dégoûtante.
Ouais.
Ou dégoûtant.
Donc allez vite acheter ce livre.
Ouais.
Et puis surtout, peut-être on a passé vraiment un petit extrait de cet échange. N'hésitez pas à aller sur YouTube, retrouver cette vidéo. Je mettrai les liens dans l'émission. Et puis plein de choses, allez follower, on aime ce terme, les pages des réseaux sociaux de l'association Pensez les mots, parce que c'est hyper important. Et puis parce que peut-être vous êtes parents ou jeunes parents d'enfants qui vont grandir et que ça peut être aussi un lieu ressource pour trouver les mots. Mm. Effectivement, en tant que parent, des fois, on ne sait pas trop ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Alors, il y a plein de bouquins, mais ça peut être aussi... vous pouvez être aussi relais, j'imagine, de livres pour les parents, plein de choses.
Suivez-nous, on a besoin de vous toutes et tous. Oui.
Même juste partager nos contenus, en fait. C'est l'effet boule de neige aussi qui va faire que... ça va rayonner un petit peu plus, quoi.
Moi, en tout cas, et nous, dans Bon Jouir et à Canal B, on vous souhaite vraiment beaucoup de rayonnement.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Agathe.
Et j'ai été vraiment très heureuse de vous accueillir dans l'émission. Merci beaucoup,
merci
Christelle et Laura.
Merci, Agathe.
Bon Jouir.
Sur Canal B.
C'était l'association Penser les mots, P-A-E-N-S-E-R, plus loin, les mots. Il est temps maintenant, à propos de mots, eh bien, de passer à une nouvelle rubrique dans l'émission. Ça s'intitule « Au bord des lèvres ». Et c'est Chloé, que nous avons découverte la semaine dernière, qui eh bien, va nous faire le plaisir de nous envoyer un texte à propos d'un mot. Voilà, je lui donne un mot et elle écrit une chronique sur ce mot.
Agathe m'a proposé le mot consentement comme axe pour ma chronique et j'ai dit ok. Mais j'aurais pu dire non. J'aurais pu dire je sais pas. J'aurais pu dire oh pas tout de suite. Mais Agathe m'a laissé le choix et la liberté. Agathe m'a respecté quoi. Et tu me vois venir là avec mon petit ton didactique et un peu simpliste. Bah viens écrire une chronique sur le thème du consentement puis on en reparle après mon cher Fernand. Alors, pour susciter une réponse, que faut-il ? Une question. Waouh, Chloé, tu t'es levée à quelle heure pour être aussi perspicace ? Eh bien, à l'heure de notre pays dans lequel une femme sur 6 fait son entrée dans la sexualité par un rapport non consenti et désiré. Ouais, on sera un peu plus drôle un peu plus tard. Quand tu manges un truc dont tu n'as pas vraiment envie, ton corps peut réagir des ballonnements, je sais pas, des nausées, des irritations, des maux de tête, bref, des effets pas vraiment Yoplait. Eh bien, un geste, qu'il soit une main, un doigt, un mot, un regard que tu ne veux pas, ou pas franchement, ou pas maintenant, ben c'est la même chose. L'importance de savoir et de pouvoir dire oui ou non est considérable. Seulement, ce n'est pas à toi. Toi, qui es en position de répondre ou carrément malheureusement de subir, de te mettre normalement la rate au courbouillon. Non, laisse la rate tranquille et le courbouillon aussi, car c'est normalement à celui ou celle qui a envie de te faire, de te parler, de te regarder de telle façon, de s'assurer que tu le veuilles vraiment. Et j'aurais tellement aimé éviter de surligner oralement, comme ça par des majuscules auditives et un peu agressives, désolé, le mot « normalement » là dans mon exemple précédent. Mais malheureusement, la réalité est telle qu'il existe moult situations, et oui, je dis encore moult comportements, qui nous sont imposés sans que nous ayons l'espace, le temps, la chance, l'opportunité, le courage, la force de verbaliser notre accord ou notre désaccord. Le harcèlement de rue, par exemple, et tout autre type d'agression sexiste ou sexuelle. Mais heureusement, puisque je tiens absolument à évoquer l'espoir, écoutez-moi bien, la promesse et la lumière, il y a une riposte sans précédent qui s'organise dans l'ombre et qui s'empare du sujet de l'oppresseur. Oui, cette chronique ne sera qu'un lointain malheureux souvenir. Très bientôt, nous n'aurons plus besoin d'organiser une émission consacrée à ce triste sujet, puisqu'un homme, mesdames et messieurs, un seul homme, avec sa bite mais sans couteau, s'est emparé du problème à bras le corps. Gérald a mis en place un plan d'action, que dis-je, un plan d'éradication ineffable et redoutable qui fera autant trembler, j'en suis sûre, une police des mœurs iraniennes qu'un Roman Polanski. Gérald, depuis le mystérieux intérieur de son ministère de l'Intérieur, a réuni pour nous, pour vous, pour tous ceux qui le veulent, les plus hautes têtes pensantes et performantes de notre planète, les plus incisifs, combatifs, méthodiques, stratagèmes, afin non pas d'endiguer, non, Gérald ne se contente pas d'une digue contre les flots oppressifs. Il les anéantit, achève et terrasse tel triton enflant sa conque devant le cyclone patriarcal. Bientôt, mesdames et messieurs, nous n'aurons plus peur, car bientôt, Gérald aura distribué des flyers. Voilà, voilà, chers auditeuristes. Celui qui est accusé de viol veut les empêcher. Comment ? En distribuant 5 millions de flyers par des policiers et des gendarmes tout au long de l'été. Parce que oui, en plus, c'est bien connu, les agressions s'arrêtent, paf, pile poil, évidemment, le jour de la rentrez, nous sommes sauvés. Allez, j'ôte le cynisme et le désœuvrement de cette chronique avec son consentement. Continuons plus que jamais de parler entre nous et entre elles tous, fort, puissamment, collégialement. S'il y a bien une chose que je souhaite, c'est de ne plus avoir à faire, à entendre, à assister à de la prévention sur le consentement. Continuons d'éduquer pour éradiquer. Vive bon jouir, vive la liberté, vive jouir en liberté.
Ah là là, Benjamin Bechler, c'est fou comme le temps passe finalement aussi vite le samedi que le dimanche.
Mais c'est taré, c'est un truc de taré. On a juste le temps en fait de filer à la marche des fiertés.
Ben oui.
Donc l'émission est finie.
Ben oui, parce qu'attention, ding dong, c'est 14h le départ.
Ah ben on y va.
On y va. Alors hop, salut. Alors on vous dit évidemment rendez-vous la semaine prochaine, mais pas le samedi à 13h. C'était juste une petite échapper comme ça dans la grille des programmes. On va revenir dans notre cadre.
On aime aussi.
Voilà. Non. On aime beaucoup ce dimanche soir à 23h. Alors si vous ne saviez pas qu'existait une telle émission le dimanche à 23h, n'hésitez pas à venir nous écouter. Car Eh bien, bon jouir, ça permet un petit peu de se détendre avant de commencer une nouvelle semaine, peut-être de merde, on ne sait pas. En tout cas, c'est la dernière heure du week-end.
C'est un message très positif. J'adore.
Toujours très positif. En tout cas, bon jouir, c'est la dernière heure du week-end. Et c'est ça qui est coolos. Eh bien, c'est pour essayer de la passer de la façon la plus jouissive possible. Mais attention, sans jamais aucune injonction au plaisir. Bon, alors demain, évidemment, sur le créneau de bon jouir, il y aura la gymnastique sonore, puisque nous avons fait un petit switch de créneau. Et puis ben, samedi prochain, le week-end prochain, tout rentrera dans l'ordre. Ici, ce sera la gymnastique sonore et bon jouir à 23h dimanche. Je vous souhaite de passer une très belle marche des fiertés, Benjamin Bechler.
Merci à vous aussi, ma chère Agathe.
Merci beaucoup. On se retrouve dimanche et d'ici là, passez
une foutrement belle semaine
sur Canal B. Thank you.